Eh bien, bonjour à tous. Alors, ce matin, nous avons déjà parlé de certains aspects de Dieu, certains traits de caractère. Et il y a des aspects, des traits de caractère de Dieu qui sont des fois plus difficiles à accepter pour l'être humain. Des aspects, voilà, on a besoin des fois de... on est obligé de lâcher prise pour pouvoir accepter certaines choses. Ben, je pense particulièrement à la justice et la grâce. La justice, des fois difficile à accepter, parce que un Dieu tellement saint qu'on ne peut rien faire pour arriver à lui. Ouf. Des fois, notre côté humaniste nous dit « Non, attends, l'homme devrait arriver à quelque chose, on devrait pouvoir voilà, faire des bonnes œuvres, travailler sur nous-mêmes. » Et arriver au, voilà, à être assez bon pour Dieu. Mais le fait que Dieu soit parfaitement juste, ben, fait que ce n'est pas possible. C'est trop difficile. Il n'y a rien à faire pour arriver à Dieu. De l'autre côté, la grâce, il y a encore notre côté un peu orgueilleux qui dit « Non, je veux faire quelque chose pour mériter mon salut, pour mériter de, voilà, que Dieu ait du plaisir en moi. » Voilà, la justice c'était peut-être trop difficile, mais on ne peut pas arriver à Dieu. La grâce c'est trop facile, il n'y a rien à faire. Et déjà dans la Genèse, Dieu va parler de ça. Ce matin, on va s'intéresser à un personnage qui est bien connu, même probablement un des mieux connus de l'Ancien Testament, même voilà, du grand public on va dire, c'est le personnage de Noé. Alors Noé... voilà, il y a plein d'images qui viennent en tête. Il y a l'arche, il y a les animaux entrant deux par deux, le déluge, l'arc-en-ciel. Et voilà, c'est toutes des images qui ont marqué notre culture et que les gens connaissent. Mais voilà, on va s'intéresser plus particulièrement dans son histoire, d'abord au jugement de Dieu, qui va aussi nous parler du jugement aujourd'hui de Dieu. Le jugement qui s'applique à des hommes mauvais. Et ensuite, on va s'intéresser à la grâce de Dieu qui s'applique à un homme juste. Voilà. Donc c'est ça, on va s'intéresser à l'état de l'humanité et la réponse de Dieu au niveau du jugement. Et ensuite, l'état de Noé et la réponse de Dieu. Alors, on va lire certains passages de Genèse 6 à 9, bon, en sautant certaines parties. Et on va ensuite s'intéresser aussi à comment les autres auteurs de la Bible utilisent l'exemple de Noé, qui vont nous parler aussi de notre état et de aujourd'hui le jugement et la grâce de Dieu. Mais commençons en lisant quelques passages dans Genèse. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner à Genèse. On va sauter, mais on va brasser un peu ce qui se passe. Et on va commencer dans Genèse à partir du verset 5. Donc, le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit, j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était pervertie aux yeux de Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie car tous s'étaient pervertis sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous est arrivée. Je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. Ensuite, des versets 14 à 16, Dieu va donner les instructions sur l'arche à construire. Et je vous propose de continuer au verset 17. « Quant à moi, je fais venir sur la terre le déluge, les eaux, pour anéantir tous ceux qui ont souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Ensuite, Dieu veut donner les instructions sur les animaux, sur comment les faire rentrer dans l'arche. Et ensuite, au verset 22, Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné, ainsi fit-il. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. Et donc, Noé va faire exactement ce que Dieu lui demande. Il va rentrer dans l'arche, et ensuite il va y avoir le déluge. Donc c'est 40 jours de pluie, 100 jours où l'eau continue à monter. Ensuite, encore des longs mois avant que l'eau se dessèche. Et je vous propose de continuer au chapitre 8, à partir du verset 15, où du coup nous avons la terre qui est sèche. Alors Dieu dit à Noé, au verset 15, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi de toutes sortes, tant les oiseaux que le bétail, et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, fais-les sortir avec toi. Qu'ils peuplent la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Noé sortit, lui, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, toutes les bestioles, tous les oiseaux et tout ce qui fourmille sur la terre, tout cela sortirent de l'arche, famille par famille. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable, et le Seigneur se dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. » Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront pas. » Et ensuite, au chapitre 9, on va avoir une nouvelle alliance que Dieu va faire avec Noé. Au verset 1, il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Ça vous fait peut-être des échos avec Genèse 1 et Genèse 2. « Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et tout ce qui fourmille sur la terre et tous les poissons de la mer, ils vous ont été livrés. Tout ce qui fourmille et qui vit vous servira de nourriture, comme les végétaux, je vous donne tout cela. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie. Je le réclamerai à tout animal. » Et je réclamerai à chaque être vivant la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui répand le sang de l'être humain, par l'être humain, son sang sera répandu, car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu dit encore à Noé et ses fils avec lui, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance d'après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux sauvages. Avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux sauvages, j'établis mon alliance avec vous. Tous les êtres ne seront plus retranchés par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour anéantir la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations, pour toujours. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi. Et tous ceux qui sont sur la terre. Et donc, je vous propose de commencer en nous intéressant au jugement de Dieu. D'abord, l'état de l'humanité. Il y a 3 semaines, François nous a parlé de la chute, et il y a 2 semaines, Jean-Marc nous a parlé du meurtre de Caïn. Et voilà, c'est là, on voit déjà le début, on va dire du mal, des choses qui vont mal. Et là, le constat est assez accablant. Le mal des hommes était grand sur la terre. Leur cœur n'était que pensée mauvaise. Tout le monde était concerné. Et là, ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur cette humanité dont le mal s'était emparé. Le regard triste de Dieu qui voit un monde perverti. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dans Romains 3:10, il est dit, Et tu peux passer. Point 3-10. Car nous avons déjà porté cette accusation. Tous, juifs et grecs, sont dans le péché, sont sous le péché. Ainsi qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et donc le constat de Dieu à l'époque, de ce mal qu'il y avait dans l'homme, ben, ça reste un constat aujourd'hui. L'homme a le cœur rempli de mal. L'homme a des pensées perverties. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'action de Dieu, donc, quand on l'a lu dans un autre passage, on a d'abord Dieu qui voit. Dieu vit tout ce qui se passe. Il fait le constat de cette méchanceté, de cet homme qui s'enfonce toujours plus. Seulement quelques générations, bon, un certain nombre de générations après la création, voilà, le constat est accablant. Et on a Dieu qui regrette. Dieu qui est attristé. Dieu regrette le mal de l'homme qu'il a créé. Il a créé quelque chose qu'il a dit était bon. Et là, avec le péché, tout va, tout s'empire. Et donc, il doit rétablir la situation. Je pense à deux images qui peuvent un peu nous aider à imaginer cette situation, à imaginer ce regret de Dieu. On peut penser, par exemple, à un agriculteur qui a un certain nombre de vaches et qui découvre que la fièvre aphteuse est arrivée dans son troupeau. Et donc là, voilà, il est lui-même attristé de ce mal qui arrive dans ses troupeaux et il sait qu'il doit faire quelque chose pour éliminer le mal. Et donc il va être obligé d'abattre son troupeau. Un autre exemple pourrait être peut-être qu'on a créé un club de lecture où on voulait que les gens viennent pour discuter d'un livre chaque semaine. Et que là, on voit que, en fait, plutôt que d'avoir des bonnes discussions, les gens se prennent la tête. C'est, au final, ce club de lecture, c'est juste commérage, méchanceté. Et on se dit, bon, autant, bon, j'arrête le club, ça sert à rien. Et donc, voilà, Dieu, je pense que c'est un peu comme ça. Dieu énonce un jugement sans appel. Il décide de faire table rase, de dire, ça suffit, il faut que j'élimine le mal à la racine. Et voilà, il va tout supprimer. Bon, on verra plus tard, tout sauf Noé et sa famille. Mais on y reviendra quand on reviendra sur la grâce. Et voilà, je vous propose voilà, un premier passage qui nous parle de Noé, qui nous parle de ce jugement. Et donc c'est Matthieu 24, 36-42. C'est à peu près la même chose dans Luc 17, et je vous propose de lire avec moi. Donc là, le contexte de ce passage, c'est Jésus qui répond un peu à la question de la fin des temps, quand est-ce que cela arrivera, qu'est-ce qui va se passer. Et donc là, il nous dit le retour du Messie, le retour de Christ, quand est-ce que ça arrivera? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et donc là, ça parle du retour de Christ, le jugement final des hommes pécheurs. Et voilà, on voit cette comparaison avec le déluge qui est frappante. Ces gens qui mangeaient, qui buvaient, qui étaient dans leurs habitudes, dans leur vie normale. Et puis, tout d'un coup, de façon inattendue, le déluge arrive et balaye tout. Et donc, le jugement final de Dieu sera similaire. On a les gens qui vivent leur vie, qui ne se soucient pas de Dieu, qui vivent dans le péché, qui ne cherchent pas à s'en repentir, et à un moment où on ne s'y attend pas. Le Christ reviendra et le monde sera jugé. Et voilà. Ensuite, dans 2 Pierre 2, Versets 4 et 10. Voilà, le passage est un peu compliqué, mais voilà, on se restreindra à la partie qui nous parle de Noé. Si Dieu, en effet, n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés et précipités dans des chaînes de ténèbres où ils sont gardés en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais qu'il a gardé le huitième homme, Noé, héros de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant aux impies comme exemple de ce qui les attend, mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé par la conduite débauchée de ses criminels, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait jour après jour son âme de juste à cause du mal qu'il voyait et entendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les gens pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux qui, dans un appétit de souillure, courent après la chair et méprisent la Seigneurie. Et donc, là nous avons ce monde impie dont parle Pierre et ce monde ancien. Le monde ancien, c'est ce monde qui a été balayé avec le déluge, du coup un monde de perversion, de péché. Mais il dit que voilà, aujourd'hui ce monde impie existe toujours. Malheureusement, le péché est toujours dans le cœur de l'homme. Et tout comme les injustes du temps de Noé se sont fait balayer, et ben les injustes aussi subiront le châtiment au jour du jugement. Ensuite, Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. Et là c'est intéressant que dans... Voilà, ça nous parle du salut de Noé, mais si lui était sauvé, le reste du monde a été condamné parce qu'il n'était pas avec Dieu. Ils étaient injustes et étaient voilà, dans le mal. Et donc, voilà, qu'est-ce que ces passages nous disent? Ces passages nous invitent à réfléchir à ce jugement du déluge, ce jugement qui répond à voilà, un monde sans Dieu, un monde qui refuse Dieu. Et voilà, qui nous donne aussi une image de ce qui va arriver. Ce jugement qui arrivera sur tous ceux qui ont refusé Dieu, qui n'en sont pas venus à Dieu, qui ont refusé le sacrifice de Christ pour eux. Et voilà, là, c'est un peu lourd, c'est un peu triste, mais heureusement, Dieu est aussi un Dieu de grâce. Et voilà, je vous invite maintenant à réfléchir à cet autre côté. Ce Dieu juste et saint apporte le jugement, mais il a aussi fait tomber son jugement sur Christ pour nous apporter la grâce. Et donc je vous propose de vous intéresser à l'état de Noé. Noé, donc, nous est présenté comme quelqu'un de juste, quelqu'un d'intègre, mais plus que ça, comme quelqu'un qui marche avec Dieu. Et on le voit dans ce qui continue. Quand Dieu lui donne des instructions, il obéit parfaitement à ses instructions qui, pour le coup, d'un point de vue humain, pouvaient sembler fous. On a Dieu qui dit, bon, de construire un bateau, là où il n'y a pas particulièrement d'eau, qu'il va y avoir un déluge, en plus, quand on voit le temps qu'il a pris, il a pris tellement longtemps pour construire cette arche, on peut s'imaginer tout ce qui passait dans sa tête, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je suis en train de gâcher ma vie? Mais Noé écoute Dieu et il obéit à ses instructions. On voit aussi sa première action après être sorti de l'arche, après avoir passé ses mois dans le bateau. Sa première réaction est d'offrir un sacrifice de Dieu. Un sacrifice pour Dieu. Un sacrifice de remerciement pour le salut qui a été opéré, un sacrifice de louange pour ce Dieu, et Dieu trouve cela de bonne odeur. Et voilà, dans Ézéchiel 14, on va pas tout lire, mais c'est un passage où Ézéchiel est en train de condamner Israël, est en train de dire, voilà, votre péché est tellement grand que c'est sûr, Dieu va intervenir. Et pour montrer l'importance de ce qui allait se passer, il disait que même s'il y avait Noé, Daniel et Job, ceux-ci sauveraient leur vie par leur justice, mais que ça. Et si tu passes slide d'après. Voilà. Et donc, et s'il y avait au milieu de lui ces trois hommes, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés. Et donc là, on a Ézéchiel qui utilise l'exemple de Job, de Daniel et de Noé, mais comme des personnes justes, des personnes dont la justice ferait que Dieu les sauverait de ce qui va se passer. Et là, il utilise pour dire, vous êtes tellement parti loin que, de toute façon, même s'il y avait ces trois personnes, c'est trop tard. Mais du coup, voilà, on a Noé qui est vraiment présenté comme cet homme juste, cette personne, qui mérite d'une certaine façon d'être sauvée, tout en sachant que ça reste une grâce, puisque je pense que Noé aussi, bah, de toute façon, n'était pas parfait. Ensuite, si on revient à 2 Pierre 2, 4-10, qu'on avait lu tout à l'heure, on a Noé qui est présenté comme le héros de la justice. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un de juste, mais quelqu'un qui. Un héros, c'est quelqu'un qui parle pour quelqu'un, qui va annoncer quelque chose. Et donc, on a Noé qui est présenté comme celui qui annonçait la justice aussi. Il n'était pas simplement quelqu'un de juste, mais. Il était quelqu'un qui partageait cette justice, peut-être qui prêchait à ses concitoyens. Mais en tout cas, voilà, c'était un représentant de la justice. Et dans Hébreux 11, 7, qu'on a lu tout à l'heure aussi, nous avons forcément Hébreux 11, c'était le chapitre qui parle des héros de la foi, la héros, H-E-R-O. Mais c'est quand même important de voir que c'est par la foi que Noé a fait ces choses. Et animé par sa piété, il a agi. La foi, c'est quoi? C'est simplement de croire en Dieu. La piété, c'est le respect de la sainteté de Dieu, c'est de chercher à lui plaire. Et voilà. Donc quand on voit ces différentes choses, on voit voilà, la justice de Dieu, la justice de Noé, son intégrité, mais on voit surtout sa relation avec Dieu. Il est quelqu'un qui marche avec Dieu, qui lui obéit, qui a une foi en Dieu, qui est animé par sa piété. Et c'est tout ça qui fait que Dieu va, à travers lui, sauver une partie. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'espère que nous sommes un peu comme Noé. Pas que nous soyons parfaits, pas que nous soyons sans défaut, mais. Que ce qui nous caractérise le plus soit notre foi en Dieu, soit notre recherche de la piété, soit notre recherche de la justice, de l'intégrité. Et voilà. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui travaille en nous, le Saint-Esprit qui change notre cœur, qui nous purifie. Mais voilà, c'est là où il veut nous amener. Il veut qu'on puisse avancer dans cette sanctification, avancer dans ces choses qui doivent découler de notre vie avec Christ. Et donc, nous avons Noé, avec toutes ses caractéristiques, et Dieu va agir à cause de cela. Au tout début de notre texte, nous lisons que un homme trouve grâce. Et Noé, voilà, c'est au verset 8, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et sa famille va être sauvée avec lui. Le projet de Dieu va continuer, puisqu'il ne va pas tout recommencer à zéro, mais il va repartir de Noé et sa famille. Et Dieu va faire alliance avec Noé d'abord avant le déluge, par rapport à son salut, mais ensuite après le déluge aussi, avec la promesse. Qu'un tel jugement, un jugement par le déluge, n'aura plus jamais lieu. Et je vous propose de lire Ésaïe 54, les versets 7 à 10. Et donc là, ce passage, donc c'est après Ésaïe 53 qu'on connaît plutôt bien. Et là, Ésaïe 54, c'est Dieu qui va promettre à Israël d'avoir compassion et de ne pas se détourner de lui. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'irritation, un instant, je m'étais détourné de toi, mais avec fidélité, pour toujours, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, le Seigneur. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te rabrouer. Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas. Et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Et donc là, on a la promesse à Noé qui est prise comme l'exemple type de la promesse qui prouve que Dieu garder ses promesses, voilà. Qu'il va respecter ses promesses. Et Dieu, là, il va promettre à Israël fidélité, compassion, rédemption, une alliance de paix. Et tout ça s'accomplira, tout comme la promesse de Noé. Et voilà, c'est quelque chose aussi, quand on voit un arc-en-ciel, voilà, qu'on puisse penser à cette promesse de Dieu et au fait que les autres de promesses de Dieu aussi tiendront. Dans 1 Pierre 3, au verset 18 à 22, il est dit « Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes, en rapport avec les péchés. Lui, juste, pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait. Au jour où Noé bâtissait l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers l'eau, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Par la résurrection de Jésus-Christ, qui s'en est allé au ciel, qui est à la droite de Dieu et à qui anges, autorité et puissance ont été soumis. » Alors là, c'est encore un passage un peu compliqué, mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est que le déluge est d'une certaine façon une figure du baptême. Le déluge a balayé le péché, a fait table rase de ce péché, et le baptême représente aussi notre vie pécheresse qui est balayée derrière nous. Ça nous rappelle aussi qu'un petit nombre ont été sauvés à l'époque de Noé, tout comme un petit nombre sera sauvé aussi du jugement de Dieu. Et si on revient à 2 Pierre 2, donc là nous avons Dieu qui a gardé ce huitième homme, gardé du déluge, gardé de la mort. Et si on regarde la fin, ça nous rappelle que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les gens pieux. Et c'est important de nous souvenir que, voilà, d'un côté, nous avons le jugement de Dieu, où, en effet, il va juger, et ce jugement va être terrible. Mais de l'autre côté, il y a aussi Dieu qui garde ceux qui sont à lui, et qui les délivre de l'épreuve. Et dans Hébreux 11, voilà, on revient sur ce verset une dernière fois, nous avons Noé qui a bâti une arche pour le salut de sa maison, donc pas juste pour lui, mais aussi pour sa famille, les personnes dont il était responsable. Et il est le premier à être héritier de la justice qui répond à la foi. Et donc aujourd'hui, nous aussi, si nous avons cette foi, si nous avons mis notre confiance en Dieu, en Jésus, et bien nous sommes héritiers de la justice. Nous sommes des héritiers. Et si nous sommes des enfants adoptifs, que ça puisse nous réconforter du fait que nous sommes héritiers de ce que Dieu veut nous donner. Et donc l'histoire de Noé met bien en évidence ces deux aspects de la nature de Dieu qui peuvent être difficiles à accepter. D'un côté, un jugement sévère qui découle de la sainteté, de la justice de Dieu contre tous ceux qui pratiquent le péché. Et de l'autre, la grâce de Dieu qui découle de sa miséricorde et de sa compassion envers tous ceux qui mettent leur foi en lui. Et Dieu n'est pas un homme pour changer, pas un homme pour changer d'avis. Ses promesses restent vraies, tout comme sa nature. Et donc aujourd'hui, nous avons le même choix. Les hommes restent pécheurs, tous les hommes, tout comme à l'époque de Noé. Et si l'on ne se détourne pas de notre péché, si l'on ne se tourne pas vers Dieu, c'est le jugement de Dieu qui nous attend. Un jugement aussi foudroyant et qui nous prendra autant par surprise que celui qui est tombé sur les concitoyens de Noé. Mais si nous nous détournons de notre péché et nous tournons vers Dieu, Dieu nous fait grâce, tout comme il a fait grâce à Noé. Donc, on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 3, « Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. » Et c'est une promesse que nous fait Dieu. Et c'est donc quelque chose sur lequel on peut compter. Comme nous l'avons lu dans 2 Pierre 2,9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les gens pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Voilà, d'un côté une belle promesse et de l'autre côté un avertissement que nous devons prendre en compte. Et comme dit Ésaïe 54, les versets 9 et 10, « Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te rabrouer. Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi. » Je vous propose de terminer avec un chant, le chant 27 qui est inspiré de ce chapitre, « Quand les montagnes s'éloigneraient ». Et voilà, que nous soyons convaincus que si nous nous tournons vers Dieu, oui, il fera tout comme il promet.